Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bon, alors là, ça ne rigole plus. Voilà quelqu'un, chers auditeurs, que nous n'avons pas vu depuis janvier quand même. Vous êtes passé à cette antenne, mais que, eh bien, une personne qui s'est expatriée loin de nous, loin de ceux envers qui elle était fidèle autrefois, loin de toutes ses convictions. Il s'agit d'Adèle Rosner. Adèle Rosner, que nos auditeurs connaissent bien, évidemment. Vous étiez journaliste à Ligne Droite ici, et maintenant vous êtes devenue bénévole à SOS Chrétien d'Orient. Comment ça va, Adèle?
Très bien, merci. Bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs. Bon, alors je me suis expatriée, mais pas pour toujours, hein. Je reviens en France très bientôt. Je précise quand même.
Et on a hâte de vous retrouver. On espère que vous passerez un petit peu dans les studios quand même pour retrouver cette chère ancienne équipe que vous affectez tant, pas vrai?
Bien sûr,
Bah
non, et
oui.
puis je crois savoir que les studios ont été tout remodelés, tout rénovés, donc j'ai hâte de voir tous ces changements.
Eh bien écoutez, on vous y accueillera avec plaisir. Bon, on n'est pas là uniquement pour avoir une discussion qu'on pourrait avoir au téléphone, Adèle. Non, plus sérieusement, on est là aussi pour parler évidemment de l'Arménie, où vous êtes désormais depuis eh bien maintenant près de 6 mois, si je ne m'abuse. Et là-bas, en Arménie, alors, il y a plusieurs sujets dont on pourra parler. Peut-être d'abord commencer sur la mission que vous réalisez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est SOS Chrétien d'Orient en Arménie actuellement, d'autant que effectivement le conflit avec l'Azerbaïdjan est théoriquement terminé depuis un certain temps, le conflit au Karabakh dont on avait beaucoup parlé à cette antenne. Est-ce que c'est dans une Arménie en paix et en reconstruction que vous évoluez et qu'est-ce que vous y faites?
Comme vous le dites, oui, évidemment, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, officiellement, en tout cas, il est terminé pour l'instant, du moins. Donc, avec SOS Chrétien d'Orient, il y a une aide, évidemment, de la part des volontaires, de la part de l'association, auprès des Arméniens qui ont pu partir de l'Artsar, etc. Mais pas que, parce qu'évidemment, il y a aussi des Arméniens qui sont en difficulté, qui sont dans une grande pauvreté, sans pour autant avoir dû fuir leur maison. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec SOS? En ce moment, on fait pas mal de donations parce que l'hiver est terminé. Donc, on faisait tous les travaux un petit peu en extérieur étaient un peu au ralenti parce qu'il fait assez froid. Il fait assez froid en Arménie. Là où je suis en ce moment, c'est un village qui
Pour
s'appelle Bardenis.
la sudiste que vous êtes, ça doit pas être simple.
Exactement. Non, mais vous savez qu'il neigeait encore la semaine dernière, là où je suis. Donc, il fait quand même bien froid. On ne voit pas encore tout à fait le printemps. Bon, toujours est-il que, voilà, on fait beaucoup de donations, notamment des donations de pommes de terre, des donations aussi d'incubateurs, donc des incubateurs d'œufs. Donc, ce sont de grosses machines qui servent dans lesquelles on peut mettre les œufs de poule, etc.,
Des sortes de couveuses, oui.
qu'on fait combler. Pour voilà, les maintenir au chaud et que les petits poussins puissent naître. Et ce sont pas mal de donations comme ça, en fait, qui aident vraiment les Arméniens qui font du travail un petit peu agricole, etc. Donc avec les pommes de terre, ils vont pouvoir les replanter, ils vont pouvoir faire prospérer leur culture. Et du coup, l'idée de SOS Chrétien d'Orient, pas que en Arménie, en fait, de manière générale, c'est vraiment d'aider les populations, et donc là, les Arméniens en l'occurrence, à pouvoir rester chez eux, à ne pas avoir la tentation à ne pas vouloir toujours partir, fuir par
Émigrer,
exemple,
bien sûr.
déménager, oui, ou même jusqu'à Erevan, parce qu'il faut savoir qu'en Arménie, il y a quand même un tiers de la population arménienne qui habite à Erevan, donc dans la capitale, ce qui est assez énorme, parce que financièrement, c'est très difficile en campagne, c'est très rude. Donc, beaucoup d'Arméniens partent habiter en ville. Et là, l'idée, c'est aussi de les aider à rester dans les milieux plus ruraux. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a aussi d'autres projets. Il y a un bus, par exemple, dans le village où là, je suis actuellement. Il y a un centre de musique qui existe depuis un moment, mais SOS a financé certains projets là-bas. Et notamment, ils reprennent là actuellement le projet d'un bus scolaire, un petit peu, qui passera dans tous les villages, les petits villages très excentrés qui se trouvent autour de cette commune, pour récupérer le matin les enfants, leur permettre de se rendre dans ce centre culturel pour apprendre la musique, pour apprendre d'autres choses que simplement ce qu'on apprend à l'école, ce qui est quand même important pour la
Oui, c'est ce
dans
que
le fond.
le sentiment que vous donnez, c'est qu'en réalité, quelque part, c'est plus SOS Chrétien en danger directement physiquement, mais en revanche que là, vous travaillez justement à la reconstruction un petit peu de l'Arménie aussi de manière donc humanitaire. On rappelle à nos auditeurs que si jamais ils font un don à Radio Courtoisie, ils ont le droit aussi d'aider un petit peu SOS Chrétien d'Orient. Sans ça, c'est interdit. Mais d'un autre côté, Adèle, il y a aussi d'autres problématiques que vous, enfin d'autres sujets sur lesquels vous penchez, vous agissez en fait de manière assez concrète. Vous vouliez me parler un petit peu de la commémoration du génocide arménien et de la marche au flambeau qui aura lieu donc jeudi soir. Oui, c'est ça, ce jeudi soir, c'est ça?
Qui ont eu lieu déjà, oui,
Ah, qui
le
ont eu lieu,
jeudi.
d'accord, très bien.
Oui, exactement. Donc vendredi, c'était le 24 avril. Donc c'est la date de commémoration du génocide arménien qui a eu lieu en 1915. Donc là, cette année, c'était les 111 ans du
Hey.
génocide arménien. Et alors chaque année, la tradition veut que la veille de cette commémoration du génocide, donc le 23 avril au soir, il y ait une grande marche au flambeau à Erevan, donc qui part de la place de la République, la place principale, là où il y a
C'est pas la même que chez nous, j'espère.
Non, pas tout à fait. Mais c'est ici, c'est sur cette place que loge le Premier ministre, etc., Nicole Pachignan. Donc c'est un endroit assez politique. Et donc, des milliers d'Arméniens vraiment se retrouvent là et marchent ensuite en procession jusqu'au lieu jusqu'au mémorial du génocide, qui est quand même assez loin parce que la marche dure un peu plus de 2 heures. Donc c'est quand même une bonne marche. Et donc, il y a beaucoup d'Arméniens qui sont là avec des flambeaux. Et c'est une marche vraiment très, très belle, très émouvant. Il y a beaucoup de chants patriotiques, de chants qui se remémorent donc, cette dure période du génocide. Et tout le monde voilà, marche, mais vraiment avec un vrai esprit. Il n'y a aucun débordement comme
Ouais.
il peut y avoir en France. Tout se passe très bien. Tout le monde respecte les consignes.
On aurait sans doute beaucoup à apprendre des Arméniens, effectivement.
Ouais, c'est très possible, c'est très possible. Mais
Mais
donc c'est aussi une marche qui fait un peu polémique parce qu'au début, il y a un drapeau turc qui est brûlé.
ah.
Ça fait des années que cette tradition perdure. Et donc au tout début de la marche, voilà, un drapeau turc est brûlé. Et alors forcément, puisque je rappelle que enfin, le génocide a été n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Qui voilà, ni son existence. Et donc, politique Pachignan, donc le Premier ministre, a notamment réagi en disant que c'était mettre de l'huile sur le feu pour rien, etc.
Ouais. Alors justement, vous vouliez parler un petit peu de Pachignan, donc effectivement, parce que le conflit entre lui, donc le Premier ministre, et le Catholicos ne s'arrête pas.
Non, ça s'arrête pas tout à fait. Alors,
Oui, bah développez
concrètement.
un peu quand même, ça va.
Bien sûr. Bah, par exemple, tout simplement, un des derniers exemples. Alors, il n'y a aucune preuve là-dessus, mais c'est ce que disent en tout cas beaucoup d'Arméniens, et c'est le ressenti qu'ont les Arméniens. Je me fais simplement leur porte-parole. Je ne suis de toute façon pas experte en la matière, loin de là. Mais donc, le vendredi, le jour de la commémoration du génocide, habituellement, il y a tout un défilé de personnalités politiques, de représentants de l'État, etc., et aussi de représentants de l'Église qui se rendent les uns après les autres au mémorial du génocide, déposer des fleurs, etc., faire un discours en mémoire de tous les Arméniens morts en 1915. Et comme chaque année, le catholicos, donc le représentant de l'Église arménienne, s'est rendu là-bas, a fait un discours habituel. Et toute cette journée était normalement retransmise en direct à la télé. Mais il se trouve que le passage du catholicos, pile au moment où le catholicos est arrivé au mémorial, eh bien, la télé a changé de programme. C'est quelqu'un en studio qui s'est mis à
Ah.
parler, etc. Alors, il n'y a rien de aucune preuve tangible pour dire que ce serait absolument voulu, mais en tout cas beaucoup d'Arméniens voient ça comme
Ouais.
une volonté de la part du gouvernement arménien et de la télévision officielle de saper un petit peu le catholicos, de le censurer. Un des exemples, et puis toujours Pachignan, voilà, qui continue d'appeler évidemment à la démission du catholicos.
Eh bien, écoutez, Adèle, je pense que effectivement, on arrive à la fin de ce petit tour d'Arménie sur la situation, eh bien, tant concrète sur le terrain que mémorielle et que politique même, finalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite. Chère Adèle, évidemment, on a hâte que vous reveniez dans ces bureaux, que vous reveniez parmi nous ici. Donc, on vous attend avec grand plaisir. Je crois que vous rentrez bientôt, qui plus est.
Oui, tout à fait. Le 12 mai.
Le 12 mai. Eh bien, écoutez, on espère que vous passerez un petit peu par ici pour nous retrouver. Merci beaucoup, Adèle. Et oui, pardon,
Oui, non,
Franck.
je voulais juste transmettre à Adèle l'amitié des amitiés de l'équipe, mais aussi des gens qui l'écoutent sur le chat et qui sont ravis de l'entendre à nouveau.
Voilà, très bien. Mais écoutez, merci,
Merci.
Adèle, en tout cas. Vous nous manquez, revenez vite. Et puis, on vous dit, eh bien, à très bientôt ici sur Ligne Droite.
Merci beaucoup, à bientôt.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour ce nouvel entretien, je laisse la parole à Richard de Sèze.
Merci Alexandre. Et pour ce nouvel entretien, nous recevons surtout avec bonheur Mériadec Raffray, rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Mériadec. Alors,
Ça va Alexandre?
Ça va, mais je m'en vais laisser l'antenne, merci.
Le Mali revient sur le devant de la scène avec des choses absolument étonnantes, comme par exemple samedi dernier, le ministre de la Défense, Sadio Camara, est mort, exécuté par des djihadistes. Il y a des rebelles touaregs qui ont pris le contrôle du pays. Les troupes russes ont été obligées de négocier un cessez-le-feu, un armistice, une capitulation. Donc là, on a l'impression que le Mali, qui avait chassé la France en montrant les pectoraux, est en train de plonger dans une catastrophe absolue.
Alors vous avez raison, c'est pas une impression, c'est une réalité d'ailleurs. C'est une réalité, c'est pas vraiment une surprise pour ceux qui continuent à suivre ce dossier et qui n'intéresse plus personne. Ce qui est amusant, enfin amusant ou en tout cas coïncidence. On parlait la semaine dernière ici même avec François-Xavier Freland de l'Afrique et de la France. Honnêtement, je ne pensais pas revenir cette semaine pour reparler de l'Afrique, mais en fait, c'est la succession de ce que l'on disait la semaine dernière. En fait, le Mali est en train d'aller au bout du chemin qu'il a emprunté en fait en chassant, enfin en méconduisant la France, qui avait pourtant, il y a donc en 2013-2026, ça fait 16 ans, 13 ans, il y a 13 ans, que le Mali avait pourtant sollicité dans l'urgence pour sauver ses petites et faibles et maigres institutions. Je parle de janvier 2013. Et aujourd'hui, c'est-à-dire ce week-end, le samedi 25 novembre, 25 avril, pardon, merci de votre réaction. Samedi 25 avril, à l'aube, il s'est passé quasiment le même événement sur le plan militaire qu'il s'était passé en 2012 et 2013 et qui avait conduit le Mali à appeler la France. Cette fois, évidemment, la France n'a pas été appelée à la rescousse et sans doute qu'elle ne viendra pas. Donc, on résume les faits, si vous le voulez bien. À l'aube, samedi 25 avril, une attaque simultanée, conjointe et à l'évidence très bien coordonnée sur 5 points importants stratégiques en fait, du pays est déclenchée par le duo, le tandem, l'articulation entre les rebelles sécessionnistes touareg du Nord-Mali, qui aujourd'hui, hier c'était une autre étiquette, aujourd'hui ça s'appelle le Front de Libération de l'Azawad. L'Azawad, c'est le nom historique touareg en fait de ce Nord-Mali qui a toujours été sécessionniste depuis l'indépendance du Mali en 1960, et qui se sont à nouveau rapprochés et alliés en fait à la franchise djihadiste, la franchise de Al-Qaïda au Sahel, qui est une franchise locale, plutôt nationaliste, malienne, qui est le GNIM, le groupe de soutien à l'État islamique, aux musulmans dans cette région, qu'on appelle aussi GSIM ou GNIM, ça dépend des appellations, et surtout qui est dirigé historiquement par un vieux Touareg irrédentiste qui avait versé dans le djihad au début des années 2000, qui s'appelle Iyad Aghali, qui est un espèce de seigneur qui a échappé à toutes les tentatives de ciblage réalisées par l'armée française au cours des 9 ans de sa présence au Mali de 2013 à au 15 août 2022, jour où le dernier soldat français quitte définitivement en fait le sol malien. Et c'est cet homme-là qui continue, qui était protégé par les Algériens, qui continue à piloter ce groupe. Bref, ces deux entités se sont alliées samedi pour d'une part encercler et prendre Kidal, qui est la capitale historique du Nord Mali, et également foncer sur Gao, l'autre grande ville du Mali qui se trouve sur la boucle du fleuve Niger, et c'est là où d'ailleurs les Français avaient établi leur PC. Aujourd'hui, cette ville est encerclée. Première cible. Deuxième cible, les colonnes djihadistes à moto. On a vu énormément de vidéos circuler sur le net. C'est des motos chinoises. C'était d'ailleurs une nouvelle manière de combattre que ces djihadistes avaient mis en œuvre face pour échapper aux soldats français quand ils étaient à leur poursuite. Ces motos donc se sont dirigées vers Mopti Sévaré. Mopti Sévaré, pour ceux qui ont un peu la géographie du Mali en tête, en fait le Mali finalement c'est deux parties et avec un centre resserré qui permet de joindre ces deux parties, un nord dont j'ai parlé Touareg, et le sud lui qui est aux mains des Bambara dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire noir en fait avec Bamako, et au centre vous avez un rétrécissement en fait de ce pays et vous avez un verrou qui s'appelle Mopti Sévaré. Et qui d'ailleurs, c'est là d'ailleurs que les équipages des forces spéciales françaises avaient stoppé la descente des colonnes djihadistes en janvier 2013. On se souvient du premier mort de l'opération Serval, le lieutenant Damien Boiteux, qui était pilote d'un hélicoptère qui avait été tué lors de ce coup d'arrêt. Et donc c'est une ville verrou avec un aéroport, et les djihadistes se sont emparés. Samedi donc, 25 avril 2026. Dans la foulée, simultanément, ils ont foncé vers Kati. Kati, c'est une grande ville, la grande ville de garnison dans la banlieue de Bamako, où l'on trouve toutes les casernes de Bamako, et notamment c'est là où résidaient en fait les principaux chefs de la junte au pouvoir au Mali depuis 2020. On parle évidemment du colonel Assimi Goïta, qui était l'homme des forces spéciales qui avait conduit les deux putschs successifs et puis dirigé l'État. Ce qu'il restait de l'État malien. Vous avez cité Saïdo Camara, qui était le ministre de la Défense, qui était le numéro 2 de la junte et qui était un homme important pour la junte, puisque c'est lui qui parlait en direct avec Moscou. Camara, d'ailleurs, il a un profil assez étonnant. C'est un militaire. Il a été formé à la fois aux États-Unis et en Russie. Il parle le russe. C'est lui qui a mené les tractations pour l'intervention durable au Mali des mercenaires russes de Wagner, transformés aujourd'hui en Africa Corp. C'est lui d'ailleurs qui avait rencontré à l'époque Florence Parly, la ministre française de la Défense, pour essayer de tenter de dissuader en fait les Maliens de faire appel aux Russes. Il a été tué dans un attentat au camion suicide, un attentat au camion piégé dans la foulée. Cette attaque sur Kati a conduit Assimi Goïta à fuir. Certains disent qu'il est toujours à Bamako. En tout cas, il se terre et il ne dit rien. On sait également que le patron des services secrets maliens, la DGSE locale, a été tué dans l'attentat, que le sort du patron des armées est incertain. Certains disent qu'il est blessé, d'autres disent qu'il est mort.
C'est bien, on a l'impression qu'ils ont adopté une tactique israélienne d'élimination des têtes de pont.
En tout cas, cette attaque était drôlement, diablement efficace. Ils ont décapité en fait les principales têtes de la junte militaire. Et enfin, je pense que j'en suis au cinquième axe de cette offensive coordonnée simultanée à l'aube du 25 avril, l'aéroport de Bamako, évidemment une plateforme stratégique. Bon, et là, en fait, l'attaque a moins bien fonctionné puisqu'ils ne se sont pas emparés de l'aéroport, même si aujourd'hui tous les vols civils sont suspendus. Il semblerait que cette plateforme soit solidement tenue par le reliquat en face des forces russes, parce qu'entre-temps, dimanche, les gens de l'Afrika Korps qui était localisé à Kidal, donc au Nord-Mali, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les gens du Sud, récupérer le Nord-Mali, c'était comme un trophée politique. C'est depuis l'indépendance du Mali, en fait, les gens noirs du Sud veulent mettre en coupe réglée les gens plutôt de peau claire du Nord, c'est-à-dire les Touaregs, qui, et à l'époque, c'était l'inverse. Avant, c'était l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt les Touaregs qui dictaient leurs lois militaires aux gens du Sud en le mettant en esclavage. Et donc il y a une espèce de revanche ethnico-historique en permanente de Bamako vers le Nord. Et en 2023, avec à force moult communiqués de presse, et ils avaient célébré le retour de Bamako au Nord. Et finalement, c'est une nouvelle humiliation pour l'État malien, qui a préféré les Touaregs et les djihadistes ont préféré passer un accord avec les Russes pour éviter un affrontement à l'arme lourde. Et les Russes, en dimanche, ont reflué vers le sud, vers Bamako, et en particulier vers l'aéroport qui est aujourd'hui tenu par les Russes. Voilà le bilan. Juste, je termine le bilan. Aujourd'hui, le pays a basculé. L'État malien est en déliquescence totale. Et la situation est quand même très confuse et incertaine. Mais ce qui est clair, c'est que l'État malien n'existe quasiment plus.
Alors, l'État malien n'existe quasiment plus et victime collatérale, si j'ose dire, de cette attaque menée par les djihadistes et les Touaregs, c'est la présence russe au Mali qui était présentée comme une espèce de victoire de la diplomatie poutinienne, avec les gens de Wagner qui n'ont reculé devant rien pour discréditer l'armée française et qui là se sont révélés en fait être de piètres combattants.
Les Maliens, les Russes qui feraient mieux que les Français avec moins d'expérience, moins de matériel et moins de et surtout beaucoup moins de précautions éthiques et morales, évidemment. Et on voit tous les experts, à l'état-major des armées, tous les experts parier sur ce scénario catastrophe, en réalité. C'est pas une surprise. D'ailleurs, depuis en fait la fin de la présence française au Mali, je le disais, 2022, nos diplomates et nos militaires scrutaient attentivement en fait l'évolution de la situation. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avions encore, en tout cas à la date de novembre dernier, nous avions encore 4600 Français répertoriés officiellement à l'ambassade à Bamako, dont une majorité de binationaux. Et donc il y avait un vrai sujet de protection en fait de nos ressortissants. C'était la raison principale pour laquelle Paris observait, scrutait attentivement ce qui se passait, et tout le monde prenait le pari que ça allait dégénérer. Je cite dans mon papier cette semaine dans Valeurs Actuelles Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, qui au micro de France Inter cet hiver expliquait que de toute façon la stratégie des djihadistes, c'était d'une manière ou d'une autre, totalement ou partiellement, réussir à imposer un régime de charia sur le pays. Cet agenda était connu. Et en fait, on lisait au fur et à mesure la dégradation de la situation sécuritaire avec l'incapacité l'incapacité de cette junte habituée aux rodomontades à réagir en fait à la pression djihadiste qui se manifestait de manière très concrète. Par exemple, depuis des mois, les djihadistes encerclaient la capitale, ou en tout cas à quelques kilomètres de la capitale, et opéraient des barrages filtrants plus ou moins rigides sur la noria de camions-citernes remplis d'essence et de pétrole qui provenaient du Sénégal, du sud du Sahel, pour remplir en fait les cuves de Bamako. Et donc en fait en permanence en fait les djihadistes opéraient des coups de pression comme ça sur le Bamako, et on voyait bien que le régime était pieds et poings liés, n'avait aucune solution pour débloquer cet étau. Et le porte-parole du Quai d'Orsay en novembre, Pascal Confavreau, disait lui-même qu'ils observaient en fait l'incapacité de la, enfin l'incapacité de la stratégie en fait de Bamako, et donc anticiper une dégradation. En novembre dernier, le Quai d'Orsay s'était résolu à rapatrier à Paris tout le personnel diplomatique non essentiel au fonctionnement des emprises. Donc on voyait bien que la dégradation était inscrite dans cette évolution. Et ce qui peut-être explique qu'aujourd'hui les choses se sont accélérées, c'est que, alors tout ça c'est encore confus, mais il semble que les djihadistes et les Touaregs aient voulu agir avant en fait le début de la saison des pluies, qui va bientôt arriver dans cette région du Sahel, et qui en fait dans tout le centre nord du Mali en fait se traduit par des énormes inondations. Ça devient très compliqué en fait de pouvoir emprunter les pistes. Vous savez, toutes les pistes sont sableuses, et donc la moindre inondation en fait rend les choses absolument inextricables. Et il semble bien qu'ils aient voulu agir avant cette période, parce qu'ensuite les mobilités permises par les motos, etc., auraient été beaucoup plus difficiles. C'est comme ça qu'on voit les choses, qu'on commence à discerner les choses, même si encore une fois la photo que je viens de décrire reste sujette à des vérifications ultérieures, car on a uniquement accès à des bribes d'informations, et le brouillard de la guerre, la confusion règne à Bamako. Les autorités maliennes, le premier ministre malien vient de faire une déclaration en expliquant que la situation était sous contrôle, ce qui est absolument pas le cas. Ils ont le peu d'autorité qui reste à Bamako a imposé un couvre-feu, mais on sent bien que la junte est au bord de la déroute. Et évidemment, maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines au Mali, mais aussi chez ses voisins.
Cette volonté des djihadistes d'installer un nouveau califat au Mali, c'est de toute façon le but de tous les djihadistes, où qu'ils soient. Il y a là quelque chose, et c'est ce que vous disiez au tout début de votre intervention, c'est l'alliance avec les Touaregs et les djihadistes. Les Touaregs, eux, n'ont pas particulièrement une volonté d'installer un califat. Ils tiennent surtout à remettre en cause l'État du Mali tel qu'il a été défini en 1960.
Oui, en fait, alors, je vais commencer par répondre à l'alliance qui paraît un peu paradoxale entre ces Touaregs et ces djihadistes, mais en réalité, tous ces gens-là, en fait, au Nord, se connaissent tous. Ils sont tous des mêmes familles, des mêmes ethnies, et l'implantation, en fait, du djihadisme au Nord Mali date des années 2006, 2007, 2008, 2010, au moment où, en fait, le djihadisme algérien subit un véritable échec de la part du régime, de la part des autorités algériennes, et pour éviter d'être anéanti, n'a qu'une seule solution, c'est de fuir vers le sud, c'est-à-dire vers le désert algérien, et de passer la frontière pour se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites. C'est de cette année-là, de cette période-là, que date l'implantation dans ce Nord Mali, qui était une espèce de zone de non-droit, où l'État malien, en fait, n'avait que peu droit de cité, où la loi était faite par des bandes, des tribus armées, en fait des Touaregs, qui, depuis 1960, n'ont jamais véritablement rendu les armes ni accepté le joug de l'État de Bamako sur leur territoire. Eh bien, en fait, ces gens-là sont arrivés dans cette zone de non-droit, ont commencé à y implanter des cellules, à mettre la main sur différents trafics, à faire le business de l'enlèvement des Blancs, des Européens, les humanitaires, les pétroliers, les touristes qui vaquaient à leurs occupations dans ce vaste Sahel, pour récupérer des rançons, s'armer, etc. Et on a vu, en fait, on a vu de manière surprenante, en 2012, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce week-end, à savoir un rapprochement entre toutes ces bandes tribales, Touaregs, plus ou moins concurrentes, alliées, etc., tenant ce territoire, prélevant leur bakchiche sur tous les trafics nord-sud qui sont antédiluviens. Hein, les routes nord-sud passent par du vaste Sahara, passent par le Sahel. Et de tout temps, en fait, ces tribus nomades prélevaient leur dîme sur les trafics en tout genre, les trafics de cigarettes comme les trafics d'êtres humains. Et ils se sont rapprochés de manière très opportune pour chasser définitivement l'État malien du Nord Mali, et les Touaregs pensant reprendre le contrôle, et ils se sont fait doubler par les djihadistes dans une course de vitesse en fait qui s'explique par le fait que les vieux chefs Touaregs qui avaient été plus ou moins battus en fait après les différentes révoltes, hein, elles sont régulières depuis 1960. Il y en avait un, je vais citer Yada Gali, il avait été dans le cadre d'un accord de paix, il avait été prié, on lui avait donné une récompense, un hochet, on l'avait nommé ambassadeur et on l'avait prié d'aller exercer ses talents d'ambassadeur en Arabie Saoudite. Et ce gars-là, qui était un jeune chef Touareg prometteur, visiblement, on a constaté qu'à son retour, il s'était radicalisé. Et c'est lui qui avait orchestré, pas que lui, mais en particulier, qui avait orchestré le rapprochement entre les Touaregs plutôt laïques, assez peu perméables au djihadisme et à la charia. Il avait opéré un rapprochement entre ces gens-là et les Katibas djihadistes de l'époque, dirigés par de vrais bandits voyous djihadisés, irrécupérables. Et depuis, en fait, cette porosité perdure, puisque en fait, ce GNIM qui a été combattu par les Français de manière très efficace pendant 9 ans, trouver refuge, passer son temps, si vous voulez, à faire des allers-retours entre le côté algérien de la frontière et le côté touareg de la frontière, se jouant en fait des frontières pour se mettre à l'abri de la pression quand elle s'exerçait trop fortement des Français qui les traquaient comme une aiguille dans une botte de foin, mais avec avec du matériel, des technologies très modernes. À telle enseigne qu'à une ou deux reprises en particulier, Yada Gali, je pense, a été quasiment repéré et en phase d'être ciblé. Au dernier moment, il a échappé, notamment avec les complicités d'Alger qui le protégeaient. Et en fait, pendant toutes ces années, cette complicité a perduré. Et après le départ des Français, les Maliens se faisaient fort avec l'appui, le soutien de ces troupes, de ces milices, de ces mercenaires russes sans foi ni loi, en fait. Alors, en réalité, c'est ça. En se disant, ils seront peut-être beaucoup moins précautionneux dans la guerre que les Français, eh bien non. En fait, ces Russes ont multiplié les exactions, notamment contre la population. Ce sont des barbares modernes, en réalité. Ce sont des gens qui ne répondent qu'à l'appel de l'argent et des profits, des contreparties qu'ils pourraient tirer des richesses minières du sous-sol malien, puisque c'est le modèle en fait le modèle économique de ces compagnies de mercenaires russes. Ils ont à plusieurs reprises commis des exactions. L'armée française d'ailleurs avait mis en évidence leurs mensonges. Ils avaient maquillé en fait des charniers dont ils étaient à l'origine en expliquant que c'était des charniers qui avaient été faits par les Français. Enfin bref, on était c'est la Ligue d'humanité des guerriers en quelque sorte. Et ces gens-là se faisaient fort d'avoir des résultats meilleurs que ceux des Français qui faisaient la guerre depuis 9 ans, qui sont des experts de la guerre du désert, qui sont des fins connaisseurs de toutes ces populations et ces tribus, et qui en plus avaient le nombre pour eux. Eh bien, la réalité, c'est ça, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'au bout de 2022-2026, c'est la fin, nous arrivons au bout du récit de Moscou dans cette région, en tout cas au Mali. Ces Russes ont été... D'ailleurs c'est ce que dit le Premier ministre malien hier ou aujourd'hui. Il dit en fait, nous avons été trahis par les Russes à Kidal, qui ont refusé en fait de prendre les armes pour défendre les dernières troupes maliennes à Kidal. Ils ont préféré passer un pacte avec les assaillants, pour sauver leur peau et retraiter en bon ordre vers le sud. C'est donc la preuve que ces gens-là, non seulement ne sont pas fiables, mais en plus, lorsqu'ils sont acculés, préfèrent lâcher l'affaire plutôt que de poursuivre de respecter leur contrat.
Enfin, ce sont des mercenaires, rappelons-le. Voilà. Donc, effectivement, ils se comportent en mercenaires.
Voilà. Et donc c'est aussi un endroit, enfin, c'est aussi la fin d'un modèle russe en Afrique. Je pense que cet événement va faire tache d'huile. Et je le disais tout à l'heure, tout le monde, et surtout les grandes capitales africaines qui suivent jour après jour, heure après heure, la situation au Mali sont très très inquiètes. Et ceux qui sont les plus inquiets, je pense, ce sont les voisins et partenaires de la junte malienne, les autres juntes, c'est-à-dire celle de Niamey et celle Niamey au Niger et celle de Ouagadougou au Burkina Faso, qui sont aussi très fragilisées, dont le pouvoir ne tient qu'à un fil, qui pensaient être protégés par justement eux aussi des détachements de mercenaires russes et qui voient en fait ces Russes avoir fait demi-tour sans même combattre. Je pense qu'ils sont dans une situation alarmante, et là où les choses pourrait, l'un des scénarios catastrophes, peut-être le pire que l'on puisse imaginer dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est que le Mali, c'est une fois et demie la France. C'est un immense territoire que, évidemment, ces djihadistes, et ça, les experts sont à peu près d'accord sur le sujet, n'ont ni les moyens matériels, ni les moyens humains de contrôler. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils contrôlent, ou en tout cas, ils encerclent, ils font pression sur les points stratégiques du pays, mais les nombreux interstices sont laissés libres dans ce pays, et il y a une concurrence entre les franchises djihadistes au Sahel et en particulier au Mali. Donc je citais le GNIM qui lui est historiquement, on peut dire, ce sont des djihadistes nationalistes avec un agenda politico-religieux mais qui concerne le Mali. Et vous avez plutôt à l'est du Mali, à la charnière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, dans cette région des trois frontières, l'Iptako Gourma notamment, vous avez une autre franchise djihadiste qui, elle, a un agenda beaucoup plus global, c'est le djihad mondial, c'est l'EIGS, qui est une franchise affiliée à l'État islamique et qui, elle, n'a pas d'agenda politique au Mali, c'est un agenda uniquement religieux et de djihad mondial. Et cette franchise pourrait en profiter pour conquérir en fait ces interstices, pour étendre son territoire à l'ouest vers Bamako. Et là, nous aurions à nouveau, ce que les Français d'ailleurs ont connu, une guerre fratricide, si l'on peut dire, entre les deux franchises djihadistes, avec des conséquences absolument incalculables, évidemment, sur les populations civiles. Mais ça, depuis longtemps, elles sont la variable d'ajustement et des dommages collatéraux, mais surtout des conséquences sur les autres États qui ne tiennent qu'à un fil. Ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Niamey et Burkina Faso. Et là, évidemment, ce serait une catastrophe. Ce serait l'aboutissement, en fait, du processus que la France, par son action, avait fait reculer, à défaut d'avoir neutralisé, mais qui est donc la prise en main ou la reconstitution d'un espèce d'État islamique, si vous voulez, de ce qu'existait l'État islamique en Irak et en Syrie. Eh bien aujourd'hui, la reconstitution d'un espèce d'État, en fait, de Daesh, mais c'est un Daesh avec quelque chose avec des nationalistes djihadistes, dans ce centre du Sahel qui tomberait définitivement aux mains de ces, définitivement, qui en tout cas de manière à courte vue tomberait aux mains de ces djihadistes. Et je vous promets que au Sénégal, à Dakar, à Abidjan et à Lomé, à Cotonou, pardon, tous les dirigeants africains qui sont à la tête d'États qui tiennent encore sont très très inquiets de l'évolution de cette situation. Et il nous reste une minute.
Il nous reste une minute et demie. Et je voudrais justement vous poser une question. Et vous savez le temps qui vous reste pour y répondre. Les Touaregs font fi en fait des frontières actuelles du Mali. Alors que les djihadistes, eux, ont l'air de considérer que c'est un ensemble politique intéressant parce que ça leur permet de donner une légalité à l'établissement de la charia.
Exactement, c'est ça la différence en fait entre les deux. Mais les Touaregs en fait sont dans une logique régionaliste, si vous voulez. de fédéralisme régionaliste. Et donc, en fait, ils sont de toute façon coincés au nord par l'Algérie, qui a intérêt à, comment dirais-je, qui a intérêt à entretenir, en fait, une forme de chaos au sud pour pouvoir contrôler ce qui se passe, mais pas beaucoup plus, et qui veut que ce chaos ce soit strictement cantonné à de l'autre côté de la frontière. Alger voulant maîtriser en fait les allers-retours, mais les Touaregs effectivement sont d'une logique régionaliste. Alors cette fédération, cette logique régionaliste, elle s'étend à l'est du Mali vers le Niger, puisque vous avez tout l'Aïr nigérien qui est en fait aussi un territoire historique des Touaregs du Niger.
Eh bien, merci beaucoup Mériadec Raffray pour ce tour d'horizon du Mali, et j'espère que l'actualité nous permettra de sauter dans un autre pays avec les mêmes succès des grands stratèges qui nous gouvernent.
Merci, bonne journée.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour cette nouvelle chronique, nous recevons Victor Aubert. Victor Aubert, bonjour, je rappelle que vous êtes directeur général d'Academia Christiana. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonjour cher Alexandre, bonjour chers auditeurs.
Alors, ce matin, vous revenez sur les propos, pardon, très commentés du pape Léon XIV, tenu le 23 avril dernier dans l'avion, qui le ramenait de sa tournée africaine.
Oui. Tout à fait. Donc le Saint-Père est revenu d'un long périple pastoral, donc qui a duré 11 jours, qui a commencé en Algérie, on en avait déjà traité dans une chronique, puis en Guinée équatoriale, au Cameroun, en Angola. Mmh. Et vous savez, l'Afrique, c'est un continent où les personnes rêvent toutes de se rendre en Europe. Et donc le pape, au moment de son retour, a donné cette traditionnelle conférence de presse papale dans l'avion avec tous les journalistes, et un journaliste espagnol a osé poser la question qui fâche,
la
question de l'immigration. Et je cite le journaliste, hein, « Votre prochain voyage vous mènera en Espagne, où la question migratoire occupe une place importante. Vous savez que le thème de la migration en Espagne suscite un vif débat et une forte polarisation, même parmi les catholiques. Il n'y a pas de position claire. Que pourrions-nous dire aux Espagnols, et en particulier aux catholiques, sur le sujet de l'immigration ?»
Et alors, quelle a été la réponse du souverain pontife ?
Alors, il a eu une réponse effectivement un petit peu différente de celle qu'aurait pu potentiellement donner le pape François, qui souvent dans ses discours réduisait un peu l'immigration à la question purement finalement de l'individu, de ses droits et finalement de cette possibilité de circuler n'importe où. A l'inverse, Léon XIV ne rentre pas forcément sur un terrain idéologique, politique, d'une vision qui serait idyllique de l'immigration. Mmh. Alors, évidemment, il ne faut pas attendre du pape, du vicaire du Christ, un discours qui serait celui d'un parti identitaire européen. Ce n'est pas du tout le rôle du pape. Mais le pape a rappelé qu'il s'opposait donc à la fois aux méthodes brutales, hein, rappelant que les migrants sont des êtres humains qui méritent un respect. Ils ne doivent pas être traités, finalement, comme dans bien des cas, de manière pire que des animaux. Mais sans non plus verser dans l'angélisme, il a dit « Un pays peut dire qu'il ne peut pas en accueillir davantage. » Mais il contraste finalement cette position en disant que les pays riches ont des devoirs vis-à-vis des plus pauvres. Je cite le pape, hein, « Pourquoi ne pouvons-nous pas essayer, tant par le biais d'aides d'État que par les investissements des grandes entreprises riches et des multinationales, de changer la situation dans des pays comme ceux que nous avons visités lors de ce voyage ?» Donc c'est une position, je trouve, assez équilibrée, qui vise à la fois une justice entre les pays du Nord et les pays du Sud, et qui respecte la personne humaine.
Et donc qu'est-ce qui change réellement par rapport aux prises de position sur l'immigration du pape François ?
Alors, pour moi, c'est cette phrase essentielle du pape Léon. Il dit « Personnellement, je crois qu'un État a le droit d'imposer des règles à ses frontières. Je ne dis pas que tout le monde doit entrer sans autorisation, ce qui peut parfois, là où ils vont, générer des situations plus injustes que celles laissées derrière eux. » Donc, c'est quelque chose vraiment d'assez révolutionnaire par rapport aux propos du pape François. En soi, c'est pas révolutionnaire dans le discours de l'Église depuis toujours, mais le pape évoque, fait allusion à un désordre qui pourrait être provoqué par l'immigration et donc qui serait pire finalement que les situations de départ dans les pays quittés par des personnes qui fuient la misère, etc. Donc, on retrouve ici, finalement, voilà, la position classique de l'Église catholique dans le catéchisme, hein, où il y a à la fois le respect de la personne humaine, mais aussi la notion de bien commun, de frontières, d'État, et donc de limite aussi à l'immigration.
Et alors, face à ces déclarations, Victor Aubert, comment est-ce que le catholique enraciné doit penser la politique migratoire aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il est important d'avoir, dans ce contexte de la pensée sur l'immigration, le cadre général du libéralisme, hein, qui transforme finalement l'homme comme une variable d'ajustement dans un marché. Et je pense que la véritable politique inspirée par des principes catholiques, notamment sur l'immigration, s'inspire de ce qu'on appelle l'ordo caritatis, l'ordre de la charité, donc qui est expliqué par saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire qu'une charité bien ordonnée, eh bien, elle commence d'abord par protéger les siens, non pas par égoïsme, mais par un devoir de priorité. Donc avant de prétendre finalement accueillir le monde entier au prix de voir se détruire la société qui est capable finalement de les accueillir, au prix finalement du bien commun, de la paix civile, eh bien il faut d'abord privilégier finalement ce qui est de notre propre responsabilité.
Alors que répondre à la gauche morale qui rétorque que la foi impose un accueil inconditionnel et illimité ?
Eh bien, il faut leur répondre d'abord qu'ils se trompent de combat, parce que, finalement, les racines du mal, et c'est d'ailleurs ce qu'a bien montré le pape Léon IV, hein, le grand drame de la modernité, bah, finalement, c'est le capitalisme qui arrache des hommes à leur terre. Hein, l'urgence absolue, finalement, c'est d'en arrêter avec le déracinement, c'est de défendre aussi ce que déjà Benoît XVI évoquait comme le droit de ne pas émigrer. Et donc, les peuples du Sud doivent pouvoir vivre, s'enraciner, prospérer sur la terre de leur père, au lieu de venir grossir les rangs d'un prolétariat qui est atomisé dans nos pays au seul profit des multinationales. Donc Léon XIV a exhorté les pays riches, les grandes entreprises, à essayer d'enrayer cette immigration mortifère.
Pour conclure, Victor, quel message d'espérance adressez-vous à nos auditeurs ?
Eh bien, ne cédons pas à la culpabilisation de la bien-pensance de gauche. Hein. L'amour de notre patrie, la défense à la fois aussi de nos clochers, de nos identités, de nos familles, ne s'opposent pas à l'Évangile. Ils en sont même le prolongement incarné. Et donc, protéger nos territoires, refuser la dilution de notre culture, de notre civilisation dans la mondialisation, c'est notre premier devoir.
Merci Victor Aubert. Et puis écoutez, peut-être que ce sujet pourra être étendu un jour dans un entretien. Ça peut être toujours intéressant de parler de justement cette relation entre christianisme, immigration, voire même on pourra en faire un grand sujet avec vous si jamais vous passez à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup cher Alexandre. Au revoir.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et donc c'est la revue de presse de Gilles Brochard. Bonjour Gilles.
Bonjour Alexandre, bonjour Franck,
bonjour
chers auditeurs. La bonne nouvelle du jour fut hier d'apprendre qu'au terme de plus de 4 heures de discussion, comme le relate Le Figaro, les 30 députés de la commission parlementaire concernant l'audiovisuel public ont fini par accepter la publication du rapport dont beaucoup contestent la tonalité. Alors je rappelle le scrutin, 12 voix pour 10 voix contre, 9 abstentions. Le rapport sera rendu public le 4 mai prochain. Jusqu'au bout, écrit Amélie Ruhlmann, le rapporteur s'est refusé à toute modification. Alors d'une part, il ne renie aucune des critiques formulées dans l'introduction de son rapport, même s'il pourrait adoucir les mises en cause de certaines personnalités. D'autre part, il a laissé la possibilité au président d'ajouter un avant-propos et au groupe parlementaire de rédiger des contributions. Dans ces conditions, le rapport retranscrira bien le pluralisme des points de vue des membres de la commission d'enquête sur le sort de l'audiovisuel public. Ces derniers ont par ailleurs considéré que la censure du rapport serait un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où une grande partie de son contenu est déjà sur la place publique. De son côté, Jean-Marie Sevilla a écrit sur le site de Boulevard Voltaire « Le cheval est entré dans Troie », et sur sa page X, Charles Alonque crie « Victoire, après des mois de pression, les manœuvres des censeurs ont échoué. Merci aux députés pour leur sens de la responsabilité, ainsi qu'à Éric Ciotti et l'ensemble du groupe UDR pour leur confiance. L'heure est désormais à l'action, aux réformes et au redressement de l'audiovisuel public. Même Libération à vous, le député apparaît comme le principal gagnant. » Alors et maintenant, que va-t-il se passer ? La publication du rapport pourrait donner lieu à plusieurs types de mesures, souligne Le Figaro. France Télévisions et Radio France peuvent choisir d'appliquer directement certaines des recommandations qui figureront dans le rapport. et ce dernier peut aussi contenir des préconisations réglementaires que le gouvernement est libre de suivre ou non. Le rapport devrait surtout inspirer des propositions de loi ou à défaut infusées lors du débat budgétaire. De son côté, dans Le Parisien, un porte-parole de France Télévisions déclare « Nous ne réagirons qu'au contenu du rapport quand il sera publié la semaine prochaine ». Alors, on vient d'apprendre que la librairie Gibert, célèbre dans le Quartier Latin à Paris, vient de demander son placement en redressement judiciaire en raison des difficultés liées au déclin du marché des livres neufs, comme le note Le Parisien et Le Figaro ce matin. Une librairie qui représente la vente de 35% de livres d'occasion. Et on apprend ainsi que dans une capitale qui compte environ 750 points de vente de livres, dont près de 400 librairies indépendantes, le même groupe a récemment annoncé la fermeture de sa boutique du 13e en juin en raison d'un loyer beaucoup trop élevé. Mais Gibert ne tire pas sa révérence. Pour l'heure, il s'agit de, je cite, « solliciter la protection du tribunal des activités économiques par l'ouverture d'une procédure de redressement », indique le groupe. Et Emma Confrère raconte dans le Figaro économique que, fondée en 1886 par le libraire Joseph Gibert, l'enseigne s'est imposée comme la première librairie et le premier disquaire généraliste indépendant de France avec plus de 500 000 références neuves et d'occasion selon plusieurs sites spécialisés. En 1929, le fils du fondateur Joseph et Régis scindent l'activité en deux enseignes, Gibert Joseph et Gibert Jeune. Elles ne se rapprocheront qu'en 2017, lorsque le tribunal de commerce de Paris acte la reprise du second par le premier. Mais les difficultés s'accumulent au fil des années. Et en 2020, lors de la crise du Covid, plusieurs points de vente sont placés en liquidation judiciaire, tandis qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est lancé après la vente des murs historiques Place Saint-Michel. En 2021, le groupe ferme 4 librairies dans ce quartier où il est installé depuis 135 ans et, incapable de sortir la tête de l'eau, 2 autres magasins baissent définitivement le rideau en 2025, fin 2025 même. La situation est fragile, ajoute le Figaro, si le marché du livre reste globalement stable en France, les librairies font face à une équation économique de plus en plus difficile entre hausse des coûts, concurrence de l'e-commerce et montée en puissance du marché de l'occasion. En 2025, 307 millions d'exemplaires de livres physiques, neufs, ont été vendus pour un chiffre d'affaires de plus de 3,9 milliards d'euros, selon le cabinet Nielsen Book Data. Voilà, et puis je vous recommande un magazine dont je n'ai jamais parlé jusqu'à présent dans cette revue de presse, mais qui mérite le détour pour son sérieux, ses connaissances de la nature et la qualité de ses articles et des entretiens qu'il propose. Il s'agit du trimestriel Chasse internationale, animé par Éric Lerouge, aux éditoriaux pertinents et doués d'un certain sens de l'humain, c'est-à-dire allant à l'encontre de cette anti-humanisme qui gravite dans certaines sphères dites progressives. Ainsi, Éric Lerouge revendique un homme monde duquel il est fondamental de ne pas s'éloigner par l'éducation, la raison et la connaissance. Mais attention, prévient-il, ne replongeons pas dans les errances modernes qui nous ont conduits dans l'impasse. Plutôt la tête bien faite que bien pleine, consigné Montaigne dans ses essais à bon entendeur. Alors, ce qui a retenu mon attention dans ce beau numéro de mars-avril-mai, le grand entretien avec le général Pierre de Villiers qui se revendique comme écologiste. « Je suis né écologiste », confie-t-il. « Dans l'armée, nous sommes écologistes. Nous apprenons dès les premiers jours à respecter la nature. Les camps de manœuvre sont des conservatoires de la nature. Ils sont un des derniers endroits où il y a tant de petites fleurs sauvages qu'il faut protéger. Chasseurs et écologistes doivent marcher ensemble. De la même manière, je ne comprends pas cette écologie qui déteste l'économie et inversement. L'une marche avec l'autre, nous ne pouvons pas les dissocier sans quoi elles disparaissent toutes les deux. Je suis pour l'unité nationale. » Et pour Pierre de Villiers, homme d'ardeur qui dit « Être animé aussi par l'intuition, la chasse est une école de vie, l'école de l'humilité. La chasse est aussi l'amour de la nature, du silence. » Citant Napoléon, « La chance est la forme la plus élaborée de la compétence. Celui qui ne tire rien à jeu de Villiers doit s'interroger sur sa compétence. » Enfin, je retiens
son raisonnement. La chasse requiert des qualités très proches de celles que l'on trouve chez le soldat, parce qu'au même titre que le chasseur, il est confronté à la nature et à ses aléas. Voilà, à lire cet entretien comme toutes les autres rubriques dans Chasse internationale, 164 pages de belle densité. Et je vous laisse explorer ce magazine et je vous dis à demain.
Zone libre.
Et pour cette zone libre, j'ai le plaisir de recevoir eh bien, les deux meilleurs journalistes de cette matinale après moi, après Liselotte et après Richa et après les autres aussi, mais voilà.
T'es plus deuxième là, c'est exactement. 14e.
Finalement, on est à la fin, quoi.
Oui, c'est ça.
En bas du podium.
Exactement ce que je voulais dire, mais bon.
Mais pas loin.
Tirez-en les conclusions que vous voulez. Donc, comme le suggérait très habilement Franck, on pourrait commencer cette zone libre avec peut-être Magda qui fait la poule.
Oui, mais non, il faut que ce soit un peu exceptionnel, parce que si je le fais à chaque fois...
Faites-le juste un peu.
Ça...
Non, mais refusez, faut pas.
Cours, ouais, maintenant j'ai paniqué.
Bon, très bien.
Moi je la fais.
Mais Franck, il arrive mieux que moi en fait.
Oui, non, mais attendez, mais moi c'est vous que, en train de faire la poule que je vais entendre à l'origine.
Non, j'arrive
vous
pas.
Êtes vraiment,
ouais.
Vous êtes vraiment.
Moi je suis un peu encrassée. Ouais,
je pense que la poule est malade. Bon, alors,
la poule est un petit peu malade.
C'est du master poule ça. Non, ça vous va pas.
C'est le genre de choses dont on pourrait très bien se passer. Ouais, voilà, exactement. Oui, ça c'est.
J'ai envie d'appartenir.
Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment, ça y est, vous sentez, vous diffusez des entretiens pendant que je parle maintenant. C'est vraiment merveilleux. Bon.
Non, je regardais la télé tranquille.
Ah, c'est ça, mais si on vous dérange, vous nous dites. Hein. Bon, alors, Magda, très sérieusement, je crois que vous aviez une information capitale à nous livrer.
Oui, exactement. Mais là, pour le coup, un peu plus importante que des bruits d'animaux.
Quoi?
Puisque ce week-end, à Saint-Denis, une scène hallucinante s'est produite. Puisqu'il y a eu un tournage de clip de rap qui est totalement illégal, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes dans la cité de. Du Framoisin. Et quand la police est intervenue pour faire respecter la loi, parce que oui, tout ça était totalement en l'absence d'autorisation préfectorale, elle a été caillassée un peu évidemment. Trois agents ont été pris à partie, détention immédiate, des renforts déployés.
Mais enfin,
et
jusqu'ici, il n'y a pas vraiment d'infos.
Voilà,
c'est
un peu le grand classique. Sauf que là, l'info, c'est que le maire LFI Bali Bagayoko s'est rendu sur place et au lieu de soutenir l'intervention des forces de l'ordre, il s'y est frontalement opposé. Il a défendu. La poursuite du tournage, qui était pourtant toujours illégal. Et concrètement, donc, la police est venue appliquer la loi. Le maire est intervenu pour faire reculer la décision. Ensuite, il a aussi critiqué les policiers, évoquant un manque de discernement. Autrement dit, un élu de la République a fait face à une situation illégale et des policiers pris pour cible. Il a choisi de désavouer l'autorité plutôt que de la soutenir. Le signal est désastreux. Quand même le maire explique sur le terrain que la loi peut se négocier, c'est qu'il n'y a plus de loi.
Et ça, c'est existé.
Voilà. C'est un peu moins joyeux que le début de...
Bah, effectivement, oui.
De cette...
mais
j'ai
bon,
un peu gâché l'ambiance, mais on consomme ma liste.
On continue avec Mélis, peut-être.
Oui, bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais disons que, vous le savez, chers auditeurs, le rapport de Charles Laloncle, évidemment, ne fait pas que des heureux, et en particulier un certain Erwan Balanan, qui est un député donc centriste, qui donc compte produire un contre-rapport, contre le rapport de Charles Laloncle. Peut-être se sent-il un petit peu concerné par ce manque de neutralité. Il se dit peut-être que le service public ne lui servira plus la soupe. Donc, effectivement, il s'en indigne fortement. Il a expliqué, je cite, « On aurait eu la machine à fantasmes qui se serait mise en route, les cris d'orfraie de monsieur à l'oncle qui aurait crié au complot. » Franchement,
oui,
on tremble tous.
Rappelons que tous les centristes se sont abstenus dans cette affaire. Donc, pas d'info animale hier ce matin, quand même. Je suis un petit peu déçu. Non,
malheureusement.
Mais écoutez, on a eu un bout de poule enrhumé et c'est déjà ça de pris. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Magda, merci Maëlys, merci Franck, merci à tous ceux qui ont participé à cette matinale en amont, comme en aval, pas encore. Mais enfin voilà, merci ici à Louis Rigaudière, quand même, qui est en train de travailler dessus. Et merci, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X, chers auditeurs. Cependant, avant que de nous quitter, on a quand même besoin de vous dire quelque chose de capital.
Eh bien, merci à ceux qui nous aident, à ceux qui nous permettent de vivre indépendamment de toute force publicitaire ou de subvention. Merci à tous ces auditeurs qui nous aident, mais nous avons besoin des autres, ceux qui ne nous aident pas encore. Et malheureusement, seuls 2% des auditeurs qui nous écoutent financent Radio Courtoisie. Alors faites un geste, par exemple, comme Possam, que je remercie, qui était sur le chat ce matin sur YouTube et qui nous a fait un don dans le chat YouTube de $10 canadiens. des dollars en fait.
Très bien.
Donc ça c'est très gentil, on va les convertir et vous pouvez faire pareil si vous êtes sur le chat, sinon soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, merci d'avance.
Voilà, merci beaucoup, vous pouvez aussi envoyer vos chèques au 61 Boulevard Murat 75016 Paris, à l'ordre de Radio Courtoisie. Et tout de suite, on va parler de Nicolas Sarkozy, est-il fichu? C'est la question qu'on a posée à Valentin Gore.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons recevoir Valentin Gore. Valentin Gore, journaliste à Valeurs Actuelles, que vous pouvez retrouver régulièrement sur les antennes finalement de Radio Courtoisie, notamment dans Restons Courtois. Je crois que c'est tous les mercredis.
Tous les jeudis. Pour nous, hein.
Je confonds toujours le mercredi et le jeudi voilà. Pour Valeurs Actuelles, effectivement. Mais voilà, donc tous les jeudis, Restons Courtois avec Valeurs Actuelles et notamment avec Valentin Gore. Donc vous êtes présent aujourd'hui pour parler de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça qu'on vous a invité. Le procès libyen a recommencé depuis le début du mois de mars. Depuis le milieu du mois de mars. Désormais, la situation évolue de plus en plus. Il y a eu un coup de théâtre qui s'est passé très récemment, qui s'est passé plus précisément le 14 avril pour une première fois et désormais qui ne tend qu'à s'aggraver. C'est une vraie dissonance entre la version de Claude Guéant, premier collaborateur de Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy lui-même. En l'occurrence, jusqu'à présent, tous les deux avaient tout à fait front avec Brice Hortefeux également, qui est tout à fait impliqué dans cette affaire libyenne. Maintenant, il y a eu une rupture. Déjà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur les faits?
Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie d'évoquer cette affaire. C'est vrai que la nouveauté de ce procès en appel, hein, vous l'avez très justement dit, c'est qu'il y a effectivement un effet de rupture par rapport à la première instance, qui est finalement la dislocation d'une alliance très solide que vous avez rappelée entre Nicolas Sarkozy et ses principaux collaborateurs, Claude Guéant au premier chef, on va y revenir, également Brice Hortefeux bien sûr. Jusqu'ici, ces trois hommes, et même au-delà, hein, tout ce qu'on peut appeler le monde sarkozyste, avait vraiment fait front commun pour dire qu'il n'y avait vraiment pas d'affaires, qu'il n'y avait pas d'argent, que c'était tout ça n'existait pas, c'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, dès 2012, devant Laurence Ferrari, il avait dit, mais comment peut-on ne serait-ce que donner du crédit. À l'époque, c'était au fils de Muammar Kadhafi qui parlait de ce sujet. Il l'avait redit à David Pujadas en 2016, c'est le fameux « Quelle indignité !» On s'en souvient. Donc jusqu'ici, une négation en bloc. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, qui, comme on le sait, a perdu évidemment son procès en première instance, semble changer de stratégie de défense, qui peut s'entendre dans un tel cas, puisqu'il nous dit finalement que peut-être il y a eu une sorte de malversation à son insu. Hein, oui. Évidemment, de son point de vue, c'est à son insu.
Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, déjà, il faut rappeler qu'il n'y a eu aucun transfert d'argent qui a été établi entre la Libye et la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est le premier point. On n'est pas capable de retrouver l'argent s'il y en a eu. Oui. Ça, c'est le premier point. En revanche, ce qui semble certain aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des tractations avec le régime de Muammar Kadhafi, des tractations qui sont effectivement passablement illégales, qui portent notamment sur un point qui est le blanchiment d'une certaine façon de M. Sénoussi.
Oui.
Exactement,
oui.
M. Sénoussi, qui pour le coup lui est le gendre de Muammar Kadhafi et qui est responsable d'un attentat qui a causé la mort, je crois, de 267 personnes il y a quelques décennies, notamment d'une cinquantaine de Français. Et en réalité, voilà, Muammar Kadhafi semblait vouloir blanchir son gendre. Et là, justement, ce que vous dites, ce qu'on comprend, c'est que d'une certaine façon, Nicolas Sarkozy, qui était théoriquement dans ses tractations, aurait en réalité laissé, enfin en tout cas Claude Guéant et Brice Hortefeux se seraient occupés de tracter eux-mêmes avec Monsieur Sénoussi dans le but de le blanchir. On ne sait pas encore exactement dans quel contexte.
Alors, et bien entendu, c'est dans ce cadre-là, on va peut-être y venir, de ces fameuses lettres de Claude Guéant, si vous voulez, on en parle maintenant, qui sont tout à fait le coup de théâtre de cette affaire. Il y en a eu une première il y a une dizaine de jours, justement, après le 11 avril, lorsque Nicolas Sarkozy a commencé à évoquer cette possibilité qu'il y aurait eu, effectivement, j'allais dire, dans son dos, des malversations. Claude Guéant, qui est très malade, qui est affaibli, s'est exprimé par un courrier que son avocat a communiqué à certains médias pour dire qu'il s'inscrivait en faux, qu'il était stupéfait d'ailleurs des déclarations de Nicolas Sarkozy, qu'il ne s'y attendait pas. Il y a eu une seconde lettre qui est parue très récemment, hein, c'est évidemment celle dont nous parlons, et oui, qui sera notamment le sujet de l'audience demain, hein, puisqu'évidemment le président a souhaité donner un peu de temps pour étudier ces lettres. Donc c'est quand même la dislocation d'un lien, vous l'aviez dit, entre Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, qui est un lien peut-être unique entre un président et son principal collaborateur. Mmh. Il y a eu des secrétaires généraux de l'Élysée très puissants. On a eu M. Kohler récemment. On peut penser à M. Bérégovoy, M. Védrine sous François Mitterrand. Mmh. Mais c'est vrai que Claude Guéant, c'était vraiment l'ombre de Nicolas Sarkozy, en tout cas à partir de 2002. Alors tout le sujet, c'est avant 2002. Ben qu'est-ce qui s'est passé avant 2002?
Mais la question, c'est déjà comment se sont-ils rencontrés? C'est un des sujets qui fait débat dans ce procès. Comment ils se sont rencontrés dans un premier point? Et ensuite, en réalité, quand est-ce qu'ils ont vraiment commencé à collaborer ensemble sur l'affaire libyenne? Est-ce que c'est en 2005? Est-ce que c'est en 2007? Et il y a des débats qui sont en réalité importants pour comprendre justement quel est tout le cheminement qui se passe sur le financement de potentiel de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Bien sûr. Alors Nicolas Sarkozy a dit que pour lui, il avait rencontré Claude Guéant en 2002, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Claude Guéant, lui, dans cette lettre, avec un ton un peu caustique, a raillé l'hypermnésie de Nicolas Sarkozy qui lui ferait défaut, selon la version de Claude Guéant, évidemment, qui lui estime l'avoir connu avant. Alors, il est vrai qu'il était secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, lorsque Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly. Tout ça reste à établir, évidemment, l'enquête le dira. Mais là encore, ce qui est surprenant, c'est vraiment cette dichotomie. Claude Guéant, qui a reçu notre confrère de Marianne, M. Valdiguier, en décembre dernier, M. Valdiguier, qui connaît évidemment les stratégies de défense, les méthodes d'avocat, lui avait dit, mais que se passe-t-il si, pendant le procès en appel, Nicolas Sarkozy change de version, vous accable. Et Claude Guéant n'y croyait pas une seconde.
Alors justement, l'avocat de Claude Guéant a très récemment, donc Philippe Bouchez Elgosi, a très récemment dit que voilà, toute nouvelle mise en cause de Claude Guéant ferait l'objet d'un complément d'attestation. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où on sent que effectivement Claude Guéant a été mis sur la touche quelque part, qu'il a été que Nicolas Sarkozy, en fait, il sent que Nicolas Sarkozy s'est un peu retourné contre lui. Claude Guéant, qui encore une fois vit d'une certaine façon sans doute ces derniers mois, ces dernières années, enfin, qui est vraiment dans un très mauvais état. On sent qu'il a envie quelque part de laver son honneur dans cette affaire. Il ne révèle pas tout, ceci dit, Claude Guéant, mais en réalité, c'est plus Nicolas Sarkozy essaiera de se défausser sur Claude Guéant, et plus Claude Guéant réagira.
Bien sûr, et là on voit, on peut imaginer que c'est pas le dernier courrier de Claude Guéant qu'on va recevoir. Il y a aussi l'hypothèse, à mon avis de plus en plus probable, que le président aille l'auditionner sur son lit d'hôpital ou sur son lit médicalisé. Je sais pas si
je savais pas si ça se faisait, ça. Tu vois.
Alors c'est possible dans certaines conditions qui sont très encadrées. Probablement d'ailleurs que Monsieur Guéant serait partant, serait d'accord, hein, étant donné qu'il a vraisemblablement envie de dire sa part de vérité, même si évidemment il faut rappeler que M. Guéant, c'est aussi un personnage trouble, qui joue évidemment sur une image, une apparence de grand serviteur de l'État, ce qu'il a été dans un sens, en tout cas par ses fonctions, puisqu'il a vraiment occupé pratiquement toutes les plus hautes fonctions que peut occuper un haut fonctionnaire. Il n'y a que la préfecture de police de Paris qui lui a échappé, que Jacques Chirac n'avait pas voulu lui donner en 2005, justement parce qu'il y avait déjà cette proximité avec Nicolas Sarkozy. Et puis en même temps, on sait qu'il y a aussi ces affaires dans lesquelles il a été condamné, notamment celle des tableaux flamands, qui ne sont quand même pas à son honneur.
Et alors les tableaux flamands, en un mot, si vous voulez expliquer.
Écoutez, c'est assez technique là aussi, mais il s'agit de
parce que c'est lié au procès libyen.
C'est lié au procès libyen, justement, parce qu'on cherche cet argent. Oui. Vous l'avez dit, il n'y a aucune trace pour l'instant. Donc, de vente de tableaux flamands, encore une fois, qui auraient été largement surestimés à la vente. Et donc, ils se sont un peu perdus, avec là aussi un usage de l'argent liquide, visiblement très répandu chez Claude Guéant. Il y avait aussi l'histoire des primes lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur. Donc tout ça quand même avec un monde qui c'est vrai ne fleure pas forcément l'éthique parfaite.
Hein. On a l'impression ouais. d'avoir un petit peu la queue de comète du pascoïsme politique oui. d'une certaine façon, enfin des barbouzeries on va dire.
Vous avez raison et j'irais même encore plus loin parce que Claude Guéant c'est vraiment tous ces réseaux de la droite. Il a commencé chez Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur de Giscard d'Estaing, dans une époque où là aussi les complots étaient ouais. assez nombreux, on le sait. Et puis ensuite, c'est un homme de la Giscardie qui s'est un peu recyclé d'abord chez Charles Pasqua, vous avez raison, qui en a fait son directeur adjoint de cabinet au ministère de l'Aménagement du Territoire, puis le directeur général de la police nationale, là aussi avant, d'après Nicolas Sarkozy, qu'ils se rencontrent. Mais on voit bien comment des réseaux Pasqua, on peut ensuite entrer dans les réseaux de Nicolas Sarkozy, puisque ce sont des réseaux assez cousins.
Et Brice Hortefeux, là-dedans, on en parle un petit peu moins. C'est quand même quelqu'un qui, encore en 2024, était député européen.
Oui.
Où ça en est justement de sa part dans le dossier ?
Alors lui, il est évidemment tout ça ne l'arrange pas tellement parce que pour tout vous dire, il a pour l'instant conservé vraiment une fidélité totale à l'égard de Nicolas Sarkozy. Au-delà d'être son collaborateur, d'avoir été son ministre, ce sont des amis, je crois depuis le lycée, hein, c'est très ancien. Donc pour l'instant, il y a vraiment toujours ce lien tient entre eux. Nicolas Sarkozy ne l'a pas chargé, comme on dit, au procès, mais là aussi, il va être intéressant de voir comment M. Hortefeux va se débrouiller de cette nouvelle péripétie d'audience qui peut lui être préjudiciable, hein, puisque lui aussi s'est rendu en Libye, notamment entre 2005 et 2007. Oui. Il était à l'époque ministre délégué aux collectivités territoriales. Donc c'est vrai qu'on voit mal le lien avec la Libye.
Et effectivement, d'une certaine façon, évidemment que la nouvelle version de Claude Guéant fragilise aussi la défense de Brice Hortefeux dans cette affaire. Simplement, il nous reste 2 minutes, oui. Valentin Gore. En un mot, on voit aussi dans ce procès quelque chose d'absolument fascinant, qui est que ces ramifications vont jusqu'à des hommes d'affaires saoudiens, vont jusqu'à, effectivement, vous l'avez dit, des ventes de tableaux flamands. En fait, en réalité, ce qu'on comprend, c'est que il s'agit pas simplement d'une tractation supposée entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi pour financer sa campagne. En réalité, il y a tout un système qui avait été mis en place, visiblement. On peut pas établir exactement à quelle fin, mais en tout cas, qu'il y a des ramifications au niveau international et visiblement des conséquences presque géopolitiques d'une certaine façon.
Très géopolitique, même, vous avez raison. Et là aussi, alors, il faudrait écrire cette histoire sur la longue durée, parce que tout ça est la suite, même, par exemple, du baladurisme. Tout ça avait commencé là-bas, puisque Jacques Chirac avait quand même plutôt ses réseaux bien implantés en Afrique en 1995. Édouard Balladur, qui a voulu, comme vous le savez, être candidat contre lui, a été un petit peu obligé d'aller regarder vers le monde arabe, jusqu'au Pakistan, on s'en souvient. Donc tout ça s'inscrit dans une histoire de la droite française qui est quand même pas à son honneur, certainement, même si là encore, il faut prouver que cet argent a existé, et surtout savoir à quoi il a servi, s'il a servi, parce qu'il a peut-être pas du tout servi à la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est aussi, il faut le dire. On a absolument, il y a eu évidemment des malversations. Il y a eu ces rencontres en Libye avec Monsieur Senoussi, vous l'avez dit, qui est quand même un terroriste de première classe, lors de ce moment où la Libye, à partir de 2004-2005, a cherché à se normaliser, entre guillemets.
Je pense que, alors, pour rappel à nos auditeurs, mais les audiences sont prévues donc jusqu'au 3 juin. Donc, il nous reste encore un bon mois, justement, d'audience de Nicolas Sarkozy et donc de Claude Guéant, des autres, d'Alexandre Djouri, dont on parlait sans le nommer quelque part. Le verdict sera rendu à l'automne 2026. Voilà. Donc, de cette année. Visiblement, le calendrier s'est quand même pas mal accéléré. On vous recevra, Valentin Gore, pour un petit peu essayer d'expliquer toutes ces nouvelles actualités, toutes les nouvelles ramifications. Peut-être même qu'on en fera une sorte d'émission plus large pour rentrer vraiment dans le fond du sujet qui est complexe et qui demande du temps.
Vous savez, il y a cette phrase de Nicolas Sarkozy qui avait dit, je crois, personne n'y comprend rien.
Oui, et peut-être que ça l'arrange d'une certaine façon. Mais en tout cas, merci beaucoup Valentin Gore d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Merci chers auditeurs, merci d'avoir suivi Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'était un plaisir de l'animer en votre compagnie aussi à vous, Franck.
Franck, c'est gentil.
Transition que je fais moi-même sur moi-même. Dites-nous tout.
Je vous dis tout. Soutenir.rc.fr. Voilà, j'ai tout dit. Soutenir.rc.fr pour aider Radio Courtoisie. Vous savez que c'est vital pour nous puisque vous êtes les seuls financiers de notre radio. Mmh. Alors un grand merci d'avance à ceux qui feront le geste tout de suite, par exemple.
Mais écoutez, voilà, ne perdez pas plus de temps, mais en attendant, Franck, vous ne perdez pas le temps non plus pour nous expliquer le problème du jour.
Dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Collin pour le 800e anniversaire du sacre de Saint-Louis. À midi, le libre journal de la Nouvelle Droite de François de Voyer. À 14h, le libre journal de la France libre d'Henri Foucrault. À 16h, planche Cazébule de Richard de Sèze pour Jeanne d'Arc en bande dessinée. 16h30, le RC Mac de Jean-Étienne Posa, de la fourche à la fourchette. 17h, populaire, vous avez dit populaire. 17h30, c'est Restons courtois avec Richard de Sèze aujourd'hui et Mathieu Boccoté et Bernanos, deux pessimismes opposés. Et puis à 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafon. 21h30, le libre journal de la foi de Nicole Pilorge. Et à 23h, la soirée musicale d'Aline. Aujourd'hui, Gabriel Fauré, interprété par Kun Woo Peck au piano.
Eh ben, je n'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Franck. Et demain, on peut déjà vous dire qu'on reçoit Jean-Yves Le Gallo. Donc soyez bien présents.
À demain.
Demain, 7h. À demain.